7h32 minutes. Encore quelques jours de campagne électorale. C'est ce qu'on appelle un sprint. Lundi, les Canadiens iront voter. Hier, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, était avec nous. Et ce matin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Monsieur Trudeau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Monsieur Trudeau, je vais commencer avec l'actualité directe. Un homme a été blessé par balle à Saint-Léonard au cours de la nuit. Hier, en plein après-midi, 16h, trois garderies autour d'un endroit, tentative de meurtre dans l'arrondissement Saint-Michel. Vous n'êtes pas la police de Montréal, mais vous êtes le premier ministre du Canada, et dans tous ces cas, ou presque, ce sont des armes qui circulent illégalement. Qu'est-ce que vous allez faire?
On a et on continue d'investir dans les services frontaliers pour assurer plus de contrôle de l'importation d'armes. On a agi pour bannir les armes d'assaut l'année passée, et on va travailler avec Québec pour bannir les armes de poing sur le territoire québécois.
Je comprends, mais on sait, par exemple, qu'il y a des armes qui transitent par des territoires comme Akwesasne. On sait qu'il y a des armes qui entrent illégalement, même par la poste au Canada. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire?
Bien, on est en train d'investir dans plus de machines aux frontières. On est en train de travailler pour plus de pénalités pour ceux qui revendent leurs armes de façon illégale. On est en train d'assurer plus de sécurité pour les vendeurs d'armes parce que, d'exigence de sécurité pour les vendeurs d'armes parce que on sait que beaucoup de ces armes sont volées de personnes qui les ont de façon légitime.
Êtes-vous prêt à augmenter les peines de prison?
Absolument. On est prêt à faire énormément de choses pour garder les Canadiens en sécurité. Nous sommes le parti qui est toujours là pour faire plus de contrôle des armes à feu. Malheureusement, les conservateurs, c'est toujours pour moins de contrôle d'armes à feu.
Mais on a beau avoir des contrôles sur des armes légales, mais ce sont des armes illégales qui sont utilisées à des fins criminelles.
Je comprends, mais beaucoup des armes illégales sont aussi des armes qui ont commencé par étant légales au Canada, qui finissent dans les mains de criminels.
Et qu'est-ce que vous avez en tête quand vous me dites augmenter les sentences?
Écoute, on est en train de regarder la meilleure façon de le faire, mais pour ceux qui trafiquent des armes, pour ceux qui sont dans la business d'importation d'armes, on a besoin d'être très sévère.
Exemplaire.
Ouais. On verra, mais en même temps,
Vous sens hésitant, c'est pour ça que...
Ben non, j'ai pas le chiffre devant moi. C'est un enjeu sur lequel les gens savent qu'on est toujours là pour en faire plus et en même temps pour investir dans le communautaire, dans les services de police communautaire, dans les programmes pour les jeunes, pour les détourner des gangs, là. C'est un problème grave, mais c'est pas un problème qui a une solution distincte et facile.
Parce que vous êtes interpellé par les maires, mairesses des grandes villes, entre autres du Québec. Est-ce que pour les armes de poing,
oui,
c'est une législation canadienne? Les villes vont gérer ça? C'est quoi votre position claire?
On avait une position en 2019 qu'on allait travailler avec les villes pour bannir les armes, mais là, l'Assemblée nationale a dit qu'ils voulaient bannir ça partout sur le territoire. On a dit « Super, on va bannir ça partout au Québec. » On a mis de l'argent, $1 milliard de l'avant pour eux. Et on va travailler avec toutes les autres provinces qui veulent faire de même.
OK. Quelques dossiers quand même importants. Puis je vais parler de ce qu'on appelle l'éthique pour commencer. Durant les dernières années, il y a eu un certain nombre de scandales qui ont touché votre gouvernement. On peut penser à We Charity, on peut penser à tout le dossier, disons, teinté de la nomination des juges, puis même votre ancienne ministre qui nous explique que vous lui avez menti, que vous avez mis de la pression pour faire en sorte que SNC-Lavalin soit épargné. Prenons, pour commencer, We Charity.
Le commissaire à l'éthique a dit qu'on n'avait rien fait de mal, que j'avais rien fait de mal. C'était toutes des attaques personnelles conservatrices qui n'avaient aucun fond.
OK, mais c'était un méga contrat donné à vos amis.
Non, pas du tout. C'est exactement ce que le commissaire à l'éthique a dit. Ah non, effectivement, il n'y avait rien là-dedans.
Ils ont eu un contrat?
Non. Ils ont obtenu quelque chose de la bonne façon pour aller aider les jeunes, mais il n'y a eu aucune interférence. Ce n'est pas mes amis, c'est des gens que je connaissais, mais les conservateurs, effectivement, ont passé tout pendant la pandémie à attaquer sur quelque chose qui n'avait pas de fond, que c'était une attaque personnelle, que le commissaire à éthique a dit « Monsieur Trudeau a fait rien de mal là-dedans. »
Mais vous avez perdu votre ministre des Finances.
On a perdu énormément de temps, pas à un niveau personnel que ça me dérange, mais on est en train de lutter contre une pandémie et les conservateurs passaient tout leur temps en comité à nous attaquer sur quelque chose où ils n'avaient pas raison sur le fond des choses.
Okay, prenons,
c'est un exemple parfait de comment les conservateurs choisissent d'attaquer, même si les faits ne sont pas là pour ça, pendant qu'on était en train de travailler pour sauver les gens pendant la pandémie.
Est-ce que je comprends que les juges, ça passe par le filtre du parti, par la liste des gens qui sont les amis du parti?
On a transformé la nomination des juges pour avoir un comité indépendant qui faisait des recommandations et ensuite on choisit parmi les recommandations qu'ils ont mis de l'avant. Et une fois que ces recommandations arrivent et on va mettre au public les noms qu'on choisit, oui, on fait une vérification pour voir, OK, est-ce que c'est un donateur conservateur ou libéral? Est-ce qu'il va falloir qu'on se défende dans les communications? Mais le choix du juge...
Mais pourquoi vous avez besoin de vérifier la filiation partisane?
Parce que c'est la première chose que les...
Mais ça pourrait être tentant de dire, si c'est un libéral, je le nomme.
Je comprends. C'était le système de M. Harper et des conservateurs avant qui n'avaient pas de comité indépendant pour mettre de l'avant des noms. Là, c'est un comité basé sur le mérite qui met de l'avant des noms. Et oui, on faisait une vérification juste avant de communiquer pour dire, OK, c'est vrai qu'il a fait des dons au Parti libéral, mais il a été choisi sur le mérite. Ou oui, il a fait des dons au Parti conservateur, mais il a été choisi sur le mérite.
Vous avez nommé combien de conservateurs?
Je ne le sais pas exactement, mais
plus,
on en a nommé plusieurs.
Plus de libéraux.
Probablement parce que des libéraux, on est plus aligné avec leur approche sur le système de justice. Je pense que les gens peuvent comprendre que défendre les droits des femmes, défendre les droits des minorités, c'est des gens qui circulent autour du Parti libéral.
Qui je dois croire? Votre ancienne ministre ou vous, sur SNC-Lavalin? Avez-vous mis de la pression indue sur la ministre?
Non. J'ai pas mis de pression indue sur la ministre.
Est-ce que vous êtes mêlé d'un dossier à partir duquel vous auriez dû garder des distances?
Je pense que c'est toujours la job d'un premier ministre de défendre des jobs, de défendre les intérêts des Canadiens. Et dans des décisions politiques que doivent prendre la ministre de la Justice, il y a toujours des choix difficiles à faire. J'ai jamais mis de pression indue, mais oui, j'étais préoccupé par des milliers de jobs à travers le pays. Et c'est quelque chose que un gouvernement et un premier ministre doit faire, être préoccupé par les gens.
On va faire le tour d'un certain nombre aussi de questions, disons, qui font la manchette. D'abord, le débat d'il y a une semaine. L'Assemblée nationale a condamné. Tous les chefs ont condamné. Pourquoi ça vous a pris une semaine pour demander des excuses?
Tout d'abord, j'ai dit que c'était inacceptable le soir même quand on m'a posé la question. Quand c'est inacceptable, on s'attend à ce que les gens répliquent. Donc oui, on demande des excuses, on s'attend à des excuses, mais c'était surtout de souligner que c'était un propos inacceptable. Comme vous aviez vu quelques jours avant, j'ai souligné à M. Blanchet qu'il n'a pas le monopole d'être fier québécois. Je le suis et moi aussi, j'ai été outré par cette question-là.
Sur cette question de base, oui, mais sauf erreur, M. Blanchet vous a parlé aussi de juridiction, c'est-à-dire que là, on arrive évidemment dans les transferts aux provinces. Ma question ce matin est très claire.
Mm-hmm.
Vous êtes engagé à investir en santé. Est-ce que vous allez le faire sans conditions, sans normes fédérales et remettre l'argent à Québec?
Non.
Vous allez donc mettre des critères fédéraux?
Oui. Ben non. Pas des critères fédéraux. On va s'attendre à ce que si on envoie de l'argent pour embaucher des infirmières ou des médecins, comme on est en train de faire, ou investir en santé mentale, on s'attend à ce que ce soit investi en santé mentale.
Qu'est-ce que vous allez mettre comme condition? C'est ça que je veux savoir.
Ben, qu'on s'attend à ce qu'il y ait des résultats pour les citoyens. L'exemple parfait, c'est pour les garderies. On a exigé que des provinces à travers le pays baissent à 10 $ par jour leur coût de garderie, puis on leur envoie des milliards, des milliards de dollars. Évidemment, le Québec a déjà ce système-là, encore mieux. Alors, on transfère sans condition. Mais les gens s'attendent à avoir des résultats. Si on prend l'exemple des CHSLD, par exemple, on sait qu'il y a eu des tragédies épouvantables. On sait que ça fait des années que ça dure. Je comprends que Québec est en train de dire, oui, on a besoin de plus d'argent du fédéral. Je dis, absolument. On va envoyer plus d'argent du fédéral,
s'attendre si je prends l'image,
à ce qu'on ait des résultats.
Ouais, si je prends l'image, M. Trudeau, vous donnez de l'argent pour les centres de soins de longue durée,
oui.
François Legault va devoir faire la preuve qu'il a dépensé pour les centres de soins de longue durée.
Non, il va devoir démontrer aux Québécois que l'argent a servi à améliorer les conditions de soins. Et c'est ça que les gens s'attendent.
Aux Québécois ou à vous?
Je suis Québécois.
Non, mais je parle au gouvernement fédéral, c'est ça que je veux dire.
Il y a différentes façons de rendre des comptes. S'il publie aux Québécois, voici ce qu'on a pu atteindre comme cible, et on voit une baisse de décès, on voit une augmentation des salaires, des préposés. Moi, ça va, là. Il n'y a pas besoin de rendre des comptes directs à moi, mais on a besoin qu'on ait des résultats. C'est pas juste que quelqu'un, une famille qui envoie ses parents en CHSLD dise « Oh mon Dieu, j'aurais voulu être en Colombie-Britannique parce qu'au Québec, les standards ne sont pas aussi élevés. » Je pense que si on regarde tout ce qu'ils font à travers le pays, qu'on partage les meilleures pratiques, on peut se dire hey, « on va assurer une qualité de soins maximale.
Mais en même temps, j'allais dire, je ne parle pas juste de vous, là, mais le fédéral, depuis des années, donne des leçons de morale tout en n'appuyant pas ça avec un chèque. C'est-à-dire qu'il y a du sous-financement en santé. Puis faire la leçon
oui,
aux provinces.
Je suis tout à fait d'accord.
Mais le cash n'est pas là.
Je suis tout à fait d'accord, mais pendant cette pandémie, on a vu, on a investi, on a transféré de façon immédiate des milliards de dollars pour le système de santé. Et j'ai dit depuis le début, oui, nous allons être là pour investir encore plus. On parle de 25 milliards de plus pendant les 5 prochaines années. Les conservateurs parlent de 5 milliards de plus, 5 fois moins que ce que nous, on est en train d'offrir sur les 5 prochaines années. Et oui, c'est pas des conditions. On va pas faire de micro-gestion dans le système de santé. Mais on va dire, écoutez, les Québécois, comme tous les Canadiens, s'attendent à des résultats, puis on va discuter en partenariat de quels résultats et comment on peut les achever.
Le premier ministre du Québec, M. Legault, dit aux Québécois de ne pas voter pour vous. Il dit voter conservateur ou voter bloc. C'est comme deux sorties là-dessus. Il dit de ne pas voter parce que vous êtes un premier ministre, chef de parti centralisateur.
Ben,
qu'est-ce que vous en pensez?
Je viens juste de le démontrer un petit peu, là. Oui, moi, je m'attends que de l'argent investi du fédéral dans le système de santé à travers le pays, on ait des résultats qu'on peut démontrer pour ces investissements. Monsieur O'Toole, il est en train de dire « Ah non, moi, je donnerais cet argent-là sans condition, sans me préoccuper des résultats. » Mais c'est facile de donner zéro condition si on donne zéro dollar, parce que M. O'Toole n'est pas en train d'investir.
Mais ça vous place dans quelle relation avec le premier ministre du Québec quand il dit « votez pas pour lui »
Ben, écoute, c'est quelqu'un avec qui on a pu travailler pour livrer, particulièrement pour l'économie, que ce soit l'Internet large bande, que ce soit l'aérospatial. Mais en même temps, moi, j'ai comme l'impression que sur des questions de fond qui préoccupent les Québécois, les relations Ottawa-Québec ne sont pas en tête de liste, le sont peut-être pour M. Legault. Les Québécois qui me parlent se préoccupent des places en garderie. On est là pour ça. M. O'Toole va les arracher. Se préoccupent énormément des changements climatiques.
Oui, mais
on
si
est là
vous
pour
êtes réélu,
plus,
là, vous allez avoir à négocier et à faire affaire avec le premier ministre du Québec. Là.
Écoutez, je négocie régulièrement avec plein de premiers ministres qui sont en désaccord avec moi. Puis moi, à chaque fois, je livre pour les citoyens.
Il y en a combien qui sont sortis pour dire de ne pas voter pour vous, des premiers ministres?
Monsieur Kenney, Monsieur Ford, il y a un peu de flou là-dessus. Il y en a plusieurs qui ne sont pas fans de moi, mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai travaillé avec eux pendant la pandémie. Je vais pouvoir travailler.
Mais parce que vous avez des visions différentes, là.
Oui, mais les Québécois, quand on parle des valeurs québécoises, là, c'est la lutte contre les changements climatiques, c'est de contrer la crise du logement, c'est les garderies, et là-dessus, sur ces trois éléments-là, M. O'Toole est en train de nous ramener en arrière. Il veut ramener les cibles de Harper sur les changements climatiques. Il veut moins faire dans la lutte contre les changements climatiques, ce qui va nous faire mal pour notre économie, nos jobs. Je comprends que M. Legault a sa perspective là-dessus, mais il se trompe s'il pense que les valeurs des Québécois sont alignées avec ce que les partis conservateurs...
Mais par exemple, la loi pour la laïcité, si on parle d'un point de désaccord, pour vous, c'est discriminatoire. C'est pas du racisme, mais c'est discriminatoire.
C'est quelque chose avec lequel je suis en désaccord. Ça, vous le savez, on en a parlé depuis des années. Oui. J'ai aussi pas écarté la possibilité que le fédéral s'engage dans une lutte, peut-être à la Cour suprême, à la Cour. Pour l'instant, on ne fait rien. Et c'est la Cour, justement, ici au Québec, qui va juger si c'est discriminatoire ou non, parce que des Québécois sont en train de défendre leurs droits. Mais les gens le savent depuis longtemps, je suis pas d'accord avec cette loi.
L'environnement, c'est un sujet majeur.
Mm-hmm.
Quelle est la crédibilité des politiciens qui ont des cibles, qui annoncent des objectifs et qui sont incapables de les atteindre, et c'est même du recul. Actuellement, la consommation d'essence, je vais prendre que le Québec, est en croissance. On n'est pas en réduction. Le nombre de véhicules augmente. Êtes-vous vraiment crédible quand vous me dites que vous êtes un premier ministre vert?
Par rapport à l'environnement, il faut écouter les scientifiques et les experts. Et on est actuellement en voie d'atteindre l'objectif de baisser de 36 % nos émissions depuis le niveau de 2005 en 2030. beaucoup plus que le 30% que M. Harper et M. O'Toole proposent. On est déjà en direction de 36%. On va en faire plus. Notre plan, qui va mettre une limite absolue sur les émissions des gaz à effet de serre de l'industrie pétrolière et gazière, est crédible, va atteindre notre cible de 40% et va créer de la croissance économique.
Allez-vous participer au financement d'un tunnel entre Québec et Lévis?
On est intéressé par l'aspect transport collectif là-dedans, mais on a beaucoup d'hésitations.
Donc, il n'y aura pas...
On va en discuter. Il n'y a pas eu de projet précis proposé au gouvernement fédéral encore, mais nous, on est là pour investir dans le transport collectif, que ce soit la ligne bleue, que ce soit le tramway du Québec, que ce soit le REM. Mm-hmm. Des autoroutes, des tunnels, surtout des nouveaux tunnels, ce n'est pas nécessairement un créneau dans lequel on se retrouve, mais on va regarder... Okay. Pour les éléments de transport collectif, on a des préoccupations environnementales.
Les gens vous ont reproché d'avoir déclenché l'élection. Si vous êtes réélu minoritaire, allez-vous faire les 4 ans ou jusqu'à temps que l'opposition vous sorte? Autrement dit, est-ce que vous engagez à ne pas vous déclencher des élections?
Bien, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est qu'il y a énormément de différences profondes entre les différents partis. Moi, je vais essayer toujours de faire fonctionner les choses, mais quand on voit des blocages et des partis qui ont tellement des visions différentes de comment avancer, on ne peut pas faire d'engagement à ce niveau-là, mais je compte avoir le plus grand nombre de députés québécois au gouvernement, de Canadiens au gouvernement possible.
Dernière question, parce que je sais que vous devez quitter. Vous avez dépensé beaucoup d'argent dans différents programmes pendant la pandémie. Mm-hmm. Les partis politiques nous annoncent des investissements, des milliards, c'est quand même pas rien, là. Avez-vous un plan pour quand même un jour réduire cette dette-là? Moi, je pense aux jeunes parents qui nous écoutent et disent « Le fédéral s'endette, s'endette, s'endette. » On comprend une crise, là, mais on ne peut pas garrocher des milliards comme ça tout le temps.
D'abord, les investissements qu'on fait, que ce soit pour des places en garderie ou pour contrer la crise du logement, ça va aider avec le coût de la vie. On est là pour les aînés, je comprends. Mais on a un plan chiffré et responsable qui baisse la taille de notre dette par rapport à la taille de notre économie. Et les compagnies financières à l'international, les gens qui donnent les cotes de crédit, sont en train de dire que c'est un plan responsable qui demeure triple A, qui va à faire en sorte que le Canada est en train de croître et non de sombrer dans la dette. C'est un plan responsable que nous avons et nous en sommes confiants.
M. Trudeau, merci d'être venu ce matin.
Merci, M.
Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Il est 7h50.